Bonjour et bienvenue dans la radio de la Fondation Queerazio. Je suis Valériane, je suis bénévole pour la Fondation et aujourd'hui vous êtes avec moi dans la grande interview. J'ai la très grande joie d'accueillir Thierry Matera. Bonjour Thierry.
Bonjour Valériane, un grand plaisir d'être avec vous aussi. Merci de me recevoir dans cette belle radio.
Alors Thierry, tu es responsable média au sein du groupe Société Générale et tu es aussi co-leader du réseau interne de collaborateurs Pride on Allies France, dédié à l'inclusion des personnes LGBTQIA+ et alliées. Depuis plusieurs années, tu mets ton expertise en communication et tes convictions au service de la diversité et de l'inclusion. Alors des guides de conversation, des stands de sensibilisation, des roadshows, des synergies entre différentes ERG, les réseaux internes de collaborateurs et des initiatives d'accueil pour les personnes qui en ont besoin. Avec Pride on Allies, vous êtes convaincu que l'engagement en faveur des droits humains ne se limite pas à des déclarations. Il s'agit d'éclairer, de challenger, d'apporter des idées concrètes et d'aider d'autres entreprises à embarquer dans ce changement. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Thierry. Et j'ai envie de commencer directement par cette question. D'où vient Pride on Allies? Est-ce que c'est une initiative française, internationale? Comment ça s'est passé?
Eh bien, pour être précis, en l'occurrence, ça a été fondé en 2009 en Grande-Bretagne. C'est là que tout a commencé. Mais depuis, en l'occurrence, ça s'est développé un peu partout dans le monde. Aux US et à Hong Kong, ça fait maintenant 10 ans, ils sont en train de fêter leur 10e anniversaire, mais on est présent aussi en Roumanie, en Pologne, en Inde, et on est présent aussi dans plusieurs entités du groupe Société Générale, comme par exemple Evans, qui est notre filiale de solutions de mobilité. En France, en soi, le réseau a démarré en 2019 sur l'initiative de collaborateurs, qui souhaitait s'investir sur le sujet, qui avait commencé d'ailleurs à essayer de s'engager aux US. Et puis aux US, ils ont dit le mieux à faire, ce serait de le faire là où vous êtes. Donc faites-le en France et c'est comme ça que ça a démarré en France. Donc en fait, les initiatives viennent un petit peu de partout. On se parle régulièrement pour échanger sur nos actualités. Et puis on essaie de se croiser le plus souvent possible. En 2025, par exemple, on a réussi à voir plusieurs fois nos collègues des Pays-Bas en France et nous sommes allés aussi avec eux en Pologne pour échanger avec nos homologues lors d'un événement européen.
Ah oui, génial. Je vois qu'il y a beaucoup de synergies au sein de Pride on Allies. Alors justement, tu as évoqué réseau, donc on appelle ça une ERG, une Employee Resource Group, réseau interne de collaborateurs en français dans le texte. Tu en as un petit peu parlé, où vous voyez, etc., il y a des synergies. Concrètement, à quoi ça sert et comment leurs actions s'inscrit au sein de la Société Générale?
En gros, le réseau est à la fois indépendant et intimement lié en fait, aux entités au niveau interne, notamment lié évidemment au département diversité, équité, inclusion. Et on est régulièrement en lien avec à la fois les ressources humaines et ce département dédié. On a globalement notre propres principes de gouvernance, on a nos propres projets et propres initiatives, mais tout ça se fait vraiment aussi de façon très constructive avec les parties prenantes chez Société Générale. On est notamment aussi en lien très régulier avec nos sponsors diversité, équité, inclusion sur le sujet LGBT+. On a la chance d'avoir deux sponsors qui siègent au COMEX. On aura peut-être l'occasion de reparler un petit peu plus tard. En tout cas, ça nous permet vraiment de partager nos actualités, nos expertises et d'optimiser nos actions de part et d'autre.
C'est top. Et du coup, effectivement, je vois que vous êtes très bien représenté, y compris au COMEX. Est-ce que Pride on Allies échange avec d'autres ERG, soit de banques ou soit carrément d'autres secteurs?
Oui, tout à fait. C'est important pour nous parce que pas avancer en vase clos, donc évidemment on est en lien permanent avec ce qui se fait dans les autres entreprises, dans les autres groupes bancaires, mais aussi dans les autres entreprises de tout type de marché. Et ça se passe à la fois à travers des rencontres lors d'événements qui sont organisés par des acteurs de l'inclusion comme l'Autre Cercle ou Têtu, mais aussi dans des échanges qui sont plus one-to-one ou en réseau pour partager justement les bonnes pratiques et les bonnes idées. C'est vraiment des choses qu'on fait de façon très régulière. Cette année, on a pas mal travaillé sur le sujet du congé d'arrivée de l'enfant. Et pour ça, on a été en contact avec plusieurs dizaines d'entreprises pour pouvoir voir comment ça se pratiquait dans les autres entreprises et voir si on était au bon niveau, si on devait, là où on devait avancer et puis aller chercher les bonnes pratiques.
Excellent, justement. Alors, je rebondis sur ce que tu disais sur le sujet que vous avez travaillé récemment sur l'arrivée d'un enfant. Du coup, qu'est-ce que ça apporte concrètement aux collaborateurs et collaboratrices du groupe au jour le jour? Donc, on voit sur ce sujet-là, mais est-ce que tu pourrais nous partager quelques autres faits concrets?
Oui, globalement, en fait, le sujet, c'est surtout d'apporter l'assurance à tout le monde que l'on peut être pleinement soi chez Société Générale. C'est important de rappeler que le sujet est clairement pris en main et que la discrimination n'a pas lieu d'être. On a des outils pour assurer que tout ça soit réellement optimal. On a une charte d'engagement diversité, équité, inclusion, par exemple. On a des actions de sensibilisation. On a des formations pour l'ensemble du personnel. On a des outils pour ce qu'on appelle le droit d'alerte. Donc tout ça, ça nous permet effectivement d'assurer un espace de sécurité, une safe place, où les gens peuvent s'exprimer et être soi-même et donner le maximum de ce qu'ils ont, parce que justement ils sont libérés de ce qui pourrait être une pression s'ils ne pouvaient pas être eux-mêmes.
Alors du coup ça s'enchaîne très naturellement. J'ai envie de te demander, toi Thierry, dans ce être soi-même au travail, quel est ton parcours, ton histoire, qu'est-ce qui t'a poussé à faire partie, qui te donnait envie certainement de faire partie de Pride and Allies?
Mon histoire personnelle, en tout cas je la raconte assez peu. Mais je peux au moins en tout cas faire ici un nouveau coming out en tant que personne bisexuelle. Et ma foi, j'aime assez faire mon coming out en tant que personne bisexuelle, puisque c'est indépendant des diversités LGBT+, qui est peu visible, qui est souvent challengée par beaucoup de personnes, que ce soit en l'occurrence la population LGBT+, ou les personnes cisgenres hétéro. Parce qu'on a toujours un peu tendance à croire qu'une personne bisexuelle, ce serait quelqu'un qui n'aurait pas fait son choix, ou qui serait plutôt une personne homosexuelle, mais qui n'a pas encore réussi à se dire qu'il était homosexuel. Donc voilà, je suis une personne homosexuelle, justement bisexuelle. et je vis ça très bien. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, même si je sais depuis mon adolescence que je suis bisexuel, je n'ai pu réussir à mettre un mot sur là-dessus que assez récemment. Et c'est aussi finalement parce que je me suis engagé sur ces sujets-là que j'ai pu aussi peaufiner mon chemin et que j'ai pu mettre un mot dessus. Ça me fait penser un peu aussi à certaines femmes lesbiennes que j'ai pu rencontrer qui aujourd'hui me disent non, je ne suis pas une femme lesbienne, je vis avec une femme, mais le mot lesbienne ne me convient pas, il est trop connoté, péjoratif, etc. Donc je pense qu'il y a sur ces choses-là, c'est bien de temps en temps, en l'occurrence, au moins de temps en temps, de pouvoir enfin mettre un mot sur les choses et sur ce qu'on est. En tout cas, j'ai eu et j'ai encore lot de rejets, de mauvaises blagues, d'incompréhension, mais bon, tout ça, qu'importe, chacun ses blessures, c'est pas ça le plus important. Je pense que, en tout cas, j'ai voulu élever mes enfants dans cet esprit d'ouverture aux autres et tout faire pour leur permettre d'être eux-mêmes, tout simplement, et de s'épanouir en tant que tel. Pour ma part, j'ai assez souffert de cette difficulté à exprimer qui j'étais et à pouvoir le vivre de façon plus ouverte dans mon cercle amical ou dans mon cercle professionnel. Donc j'ai assez naturellement pris l'opportunité de m'engager dans mon entreprise pour que ça puisse aussi se développer dans l'entreprise. Et faire vivre cette conviction que tout le monde doit pouvoir s'épanouir et être soi-même au bureau pour pouvoir donner son plein potentiel.
Merci beaucoup Thierry pour ce partage. C'est vrai que réussir à le dire, c'est pas simple. Et l'assumer, en quelque sorte, c'est vraiment pas simple. Faire fi de, tu l'as appelé, les mauvaises blagues et tous ces gens qui comprennent pas. C'est beaucoup de peur en général, tout ça. Je sais que chez à la Société Générale, vous avez en quelque sorte un premier de cordée en la personne d'Alexandre Mema, qui dit comme toi qu'il faut être vraiment soi-même et que c'est indispensable. On peut pas laisser qui on est à la porte du bureau jouer un rôle et repartir en réenfilant son costume. Et du coup, tu en as un petit peu parlé. Quel regard tu portes sur ton expérience au sein du groupe, justement ?
En tout cas, il y a effectivement Alexandre Mema qui est très impliqué et c'est une vraie chance de travailler dans un groupe qui a ce genre de personnalité et dans un groupe qui mène une politique d'inclusion des diversités très, très engagée et très largement partagé dans l'ensemble de l'entreprise. Alexandre Mema, c'est vraiment un sponsor qui prend régulièrement la parole depuis des années partout dans le groupe, partout où il va, en France, à l'international, dans des événements externes. Et ça a une valeur énorme. Et depuis qu'il est notre sponsor, on peut dire qu'on a eu un vrai coup de boost sur nos possibilités et sur la visibilité qu'on peut avoir sur ces sujets chez Société Générale. Je parlerai également de Laura Matter, qui est aussi notre sponsor sur ce sujet, et qui est une alliée hyper engagée et très reconnue, qui a eu, tout comme Alexandre, est reconnue en tant que role model, soit en France ou à l'international. J'ai en tête, par exemple, pour Laura Matter, une conversation qu'elle avait organisée il y a quelques mois au niveau international entre elle et Pip Spence. Pip Spence est une personne gender fluide et non binaire, et c'était vraiment une conversation passionnante, et c'était extraordinaire de pouvoir partager ça avec l'ensemble du personnel chez Société Générale. Donc vraiment, ça contribue grandement, je pense, pour beaucoup, à être fier de travailler dans le groupe dans lequel on travaille.
C'est vrai, on répète assez souvent, et Christophe Salin, le fondateur de Queerazio, le dit aussi, aller là où vous serez en sécurité et là où on a envie de travailler avec vous, de reconnaître vos talents. Parce que malheureusement, il y a encore beaucoup d'endroits où l'ouverture d'esprit n'est pas la même, et c'est très important d'avoir, comme tu le rappelais, aussi bien des rôles modèles que des alliés, des vrais alliés. Et tu as dû recevoir, parce que je sais qu'avec Pride on the Lies, vous avez organisé beaucoup d'actions de sensibilisation, des stands, des roadshows, tu as dû recevoir pas mal de témoignages. Est-ce que tu voudrais bien nous partager des retours qui t'ont le plus marqué?
Alors oui, des témoignages, on en a effectivement pas mal, et en l'occurrence on les partage, et on les partage justement dans nos actions de sensibilisation, c'est-à-dire que quand on fait des roadshows de sensibilisation dans les business units, service units, on fait intervenir des personnes qui vont témoigner sur l'homoparentalité, qui vont témoigner sur leur vécu en tant que femme lesbienne, et ça, ce sont des choses qui sont très précieuses. Après, on a des remerciements, évidemment, qui arrivent de façon assez régulière. J'ai en tête une femme qui était venue me voir en me disant que vraiment, grâce à nos interventions dans son département et nos initiatives, ça lui avait permis de passer le cap et de faire son coming out dans son équipe. Et elle disait, en fait, je suis dans une équipe hyper dynamique, hyper ouverte, mais j'ai réalisé à quel point quand même c'était difficile de parler encore de ces sujets, et que du coup effectivement elle avait elle aussi envie de s'engager pour pouvoir faire en sorte que d'autres comme elle puissent passer le cap et se libérer et pour pouvoir être pleinement elle-même. Après on a des gens évidemment qui viennent nous voir aussi et qui nous disent là j'ai le cas en tête d'un homme aussi qui est venu suite à une conférence le mois dernier et qui m'a dit bon, en fait ça fait tellement bien de voir qu'on n'est pas seul dans l'entreprise. Je croyais encore que j'étais tout seul dans cette entreprise à être un homme gay. Et donc là, ça y est, il sentait enfin qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient être elles-mêmes et que lui, il allait pouvoir enfin être lui-même aussi dans l'entreprise. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont extraordinaires. Pareil pour les gens qui arrivent sur les stands, qui découvrent en fait le sujet et qui repartent avec un tour de cou aux couleurs de notre ERG Pride Analyze et qui donc vont pouvoir montrer leur soutien dans l'entreprise de manière plus globale. Et puis enfin, je dirais qu'il y a aussi évidemment des retours qui sont plus difficiles. On a aussi des gens qui viennent et qui témoignent de difficultés qu'ils peuvent rencontrer. On est là pour les écouter, on est là pour les orienter suivant les cas. Alors c'est principalement, heureusement, entre guillemets, des gens qui ont des difficultés plutôt avec l'extérieur, mais on a évidemment un rôle à jouer pour pouvoir accompagner aussi ces personnes.
Ah, ça donne plein de frissons, c'est hyper émouvant d'avoir ces retours. On a tendance à penser souvent que le monde du travail, enfin le travail c'est le travail quoi, hein, voilà. Et en fait on voit bien combien c'est important pour chacun d'être soi et que c'est pas du washing comme on dit régulièrement. Il y a aussi une diversité, une inclusion des identités non binaires ou transgenres et qui se joue dans les mots, les structures, les rôles modèles. Tu parlais tout à l'heure des mauvaises blagues. Comment le réseau Pride Analyze aborde avec la Société Générale cette dimension justement de gouvernance homme-femme non binaire?
Alors chez Pride Analyze, on essaie vraiment d'apporter l'attention très, très forte sur ce point. En termes de gouvernance, on a mis en place un système de, on va dire une direction de 6 personnes avec 3 titulaires et 3 personnes suppléantes. Et dans ce noyau, aujourd'hui, on a 3 hommes, 2 femmes, une personne non binaire. Et on a à la fois une représentation de l'Île-de-France et des régions. On essaie vraiment d'avoir une représentation assez faite de l'ensemble des possibilités dans l'entreprise. Autour de ce noyau, après, il y a les bénévoles qui viennent s'ajouter, qui font beaucoup pour pouvoir faire avancer les sujets. Aussi, globalement, on arrive à avoir une bonne représentation de la diversité des genres, d'orientation affective ou sexuelle. Et aussi, bien sûr, on a la présence des personnes hétérosexuelles, cisgenres, qui sont nos alliés et dont on a absolument besoin. Après, je dirais que, comme partout, on constate et on ne peut que regretter qu'on ait une sous-représentation, mais globalement une invisibilité des femmes lesbiennes, bisexuelles, et des personnes trans non binaires. Au sein de l'ERG, au sein du réseau, oui, on a évidemment des personnes qui sont visibles, mais globalement, ça reste quelque chose sur lequel on doit encore travailler. Je donnerai pour exemple, pour justement montrer à quel point on doit rester modeste, notre promotion des rôles modèles de 2025 est composée de 5 hommes, formidables tous, sur Paris, dans les régions, toute entité, et une seule femme, certes une alliée qui est au comité de direction, mais c'est pas suffisant, il nous faut plus de femmes. Aujourd'hui, c'est 40% des femmes lesbiennes qui ont déjà renoncé à mettre leur conjointe sur leur mutuelle ou contact d'urgence. C'est les 3/4 des femmes lesbiennes qui sont pas visibles de leur entourage professionnel. Moi, quand je côtoie effectivement dans l'entreprise ces femmes, me disent que aujourd'hui, elles ne souhaitent pas être trop visibles. Elles ont déjà suffisamment souffert dans leur parcours, c'est encore trop compliqué pour elles. Donc on doit encore continuer à travailler sur ces sujets. On a chez nous un guide qui est celui en l'occurrence de l'autre cercle, qui s'appelle le guide Voilà pour visibilité ou invisibilité des lesbiennes au travail. On s'appuie là-dessus et puis on communique assez régulièrement sur le sujet pour essayer de faire en sorte qu'on débloque un peu ce sujet.
Ouais, je comprends complètement. C'était quand j'étais alliée dans une ERG également, c'était exactement le même constat que nous faisions sur des femmes lesbiennes qui se cachent encore plus. Tu as évoqué la mutuelle. Il y a aussi la prévoyance, il y a aussi beaucoup de choses qui vont derrière, qui vont avec le fait de se déclarer, se rendre visible, hein, de déclarer sa conjointe, de se rendre visible, qui reste compliqué. Pour autant, tu parlais des petits guides et de l'attention que vous portez. Je sais que vous avez produit des guides de conversation, notamment autour de la transidentité. Vous avez tissé des liens entre RG, entre des rôles modèles, France, même Europe, et même dans d'autres entreprises, tu le rappelais tout à l'heure. Est-ce qu'il y aurait, selon toi, une bonne pratique qui serait la plus sous-estimée et que toutes les entreprises devraient adopter pour accompagner une personne transgenre dans son parcours?
Je dirais qu'il y a sans doute plusieurs points de vigilance à avoir. Pour moi, tout ce qui est réflexion sur l'inclusion des personnes trans doit vraiment se préparer en amont avec les différentes parties prenantes internes et avec, si possible, l'aide d'organisations externes. Mais en tout cas, on ne doit pas attendre le premier cas pour s'inquiéter du sujet. Si vous attendez le premier cas, évidemment, ça va être très compliqué et vous n'allez pas pouvoir répondre en temps et en heure aux besoins de la personne qui est venue vous voir. Ensuite, il est important de respecter le rythme de la personne concernée. C'est la personne concernée qui doit, qui va petit à petit dire comment elle veut avancer sur ce sujet. Et il faut vraiment lui laisser la main là-dessus pour que les choses se passent le mieux possible. Chaque transition, qu'elle soit sociale, administrative et ou médicale, elle s'inscrit d'abord dans une histoire personnelle. Et ce n'est pas à l'entreprise de décider à quel moment et comment une équipe, comment les parties prenantes internes ou externes seront informées du sujet, et déjà si elles doivent être informées du sujet. Tout ça, ça doit se faire au rythme de la personne, en respectant complètement ses besoins. Enfin, les personnes concernées évoluent évidemment avec d'autres personnes sont probablement cisgenres, hétérosexuels, et qui ont leur propre avis, oui, même s'il ne devrait pas y avoir d'avis, mais en tout cas, elles ont leur propre façon de penser, de voir les choses, et donc il faut pouvoir entendre aussi ces personnes. Il faut pouvoir les écouter et recueillir leurs éventuelles questions ou inquiétudes. Ça demande de l'écoute, de la pédagogie. Si besoin, il faut potentiellement devoir faire un rappel du cadre, un rappel de la politique interne, un rappel de la législation, afin de prévenir tout comportement inapproprié. Mais en tout cas, il faut aussi prévoir ce temps avec les personnes qui sont dans l'équipe et les personnes qui interagissent avec la personne concernée. Je pense que chez Société Générale, on a pris le temps effectivement de beaucoup réfléchir sur tous ces sujets. On a pu éditer notre guide d'accompagnement des personnes trans. On a encore des sujets à creuser, évidemment, mais aujourd'hui, les bases sont posées et elles sont solides, et on va pouvoir avancer avec ça.
Eh ben, bravo pour ça. On pourrait dire, je ne peux qu'appuyer ton propos, on pourrait se dire oui, bon, c'est peut-être préparé en amont, alors que si ça se trouve, ça n'arrivera pas. Pour l'avoir vécu dans une entreprise où j'étais, alors de loin, hein, avoir vu la transformation d'une personne et qui a vraiment vécu dans l'entreprise, et c'était effectivement préparé en amont, une personne transgenre, et qui nous a dit après que son monde s'était un peu écroulé autour d'elle. Elle a perdu des amis, elle a perdu de la famille aussi, elle a perdu beaucoup de gens, beaucoup d'attaches, et que la seule chose qui l'ait vraiment soutenue pendant tout ce chemin, et ben c'était de savoir que au travail elle était soutenue, parce que là au moins elle se sentait en sécurité, elle se sentait bien, et c'est ça qui l'a aidée à faire ce chemin. Et donc oui, c'est vraiment important. Je voyais toute l'émotion qu'il y avait. C'est vraiment important, ce travail d'accompagnement. Et du coup, tu parlais des équipes, parce qu'effectivement, dans les équipes, il y a aussi des gens comme moi qui suis alliée Quel est le rôle, selon toi, pourquoi le rôle des alliés est-il aussi crucial dans les droits LGBTQIA+ ?
Dans la réalité, aujourd'hui, on considère, d'après les études, que la population LGBT+, c'est en gros plus ou moins 10% de la population. Alors après, en l'occurrence, si on regarde de plus près, chez les jeunes, dans la Gen Z, on est plutôt à 17% de la population qui se définit comme LGBT+. C'est non pas que ce soit une mode, comme certains voudraient nous faire croire, mais c'est tout simplement le fait que aujourd'hui, les jeunes ont davantage la possibilité de faire leur chemin pour se découvrir et s'épanouir. Et donc, ça leur permet effectivement de plus facilement mettre des mots, parce que je l'évoquais tout à l'heure, pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils sont et pouvoir le partager. Après, du coup, ça veut dire que ça laisse quand même 80-90% de la population qui se définit comme étant cisgenre et se définit comme étant hétérosexuel. Mais c'est bien avec eux, c'est eux les acteurs de l'inclusion des personnes LGBT+. Sinon, on va rester entre personnes LGBT+, et ça ne va pas avancer beaucoup. Donc évidemment, ils ont les personnes cisgenres hétérosexuelles, c'est 80-90% de la population. On a besoin d'eux pour avancer. Dans toutes les familles, il y a des personnes LGBT+, que ce soit un oncle, un enfant, une petite fille, de même pour parmi vos amis, et c'est le cas en entreprise. Donc ça concerne tout le monde. Tout le monde doit et devrait se sentir concerné et devrait faire en sorte d'être des alliés engagés, voire travailler sur ces sujets d'inclusion, de diversité et que ce soit les diversités LGBT+ ou les autres diversités, bien entendu.
Merci pour ce rappel d'ouverture, Thierry Mintera. Effectivement, la diversité ne se vit pas en silo. Tant qu'à faire, c'est là où elle est la plus riche. Si on ouvre à cette diversité, notamment au travail, si Pride Analyze existe et a du pain sur la planche, c'est justement pour permettre à chacun d'être lui-même. Et c'est vraiment important. Un immense merci d'avoir été là. J'ai envie de te laisser le mot de la fin. Est-ce qu'il y aurait un sujet que nous n'aurions pas abordé ou quelque chose que tu voudrais mettre en lumière ou quelque chose à rappeler pour ce mot de la fin?
Je vais avoir du mal à me contenter d'un sujet. Je t'en proposerai plusieurs et peut-être que je reviendrai sur l'antenne ou que tu pourras les traiter par ailleurs. Mais les sujets en fait que je voudrais qu'on puisse aborder, c'est typiquement la parentalité ou même plutôt plus précisément les parentalités. J'aimerais qu'on puisse parler de prévention sur le HIV par exemple. On arrive là sur une saison où il va y avoir des appels aux dons sur le sujet et c'est hyper important qu'on travaille sur tout ça. J'aimerais qu'on parle d'intersectionnalité. On a parlé des femmes lesbiennes, on est là déjà un petit peu dans l'intersectionnalité. Ce sont des personnes qui ont double discrimination à la fois en tant que femme et à la fois en tant que personne LGBT+, en tant que lesbienne. Et puis, évidemment, ça serait formidable de pouvoir avoir encore le temps de parler d'autres diversités, de neurodiversité, diversité d'origine, situation de handicap. Bon, autant de sujets qu'on aborde encore trop peu ou qu'on aborde uniquement le jour international officiel qui porte le sujet. Donc voilà, on a encore plein de choses à se raconter sur.
Merci beaucoup Thierry Mintera, merci pour ces mots, pour ce croisement effectivement. On est des enfants de diversité plurielle et merci de le rappeler en conclusion. Eh bien, merci beaucoup Thierry Mintera.
Merci Valériane, à bientôt.
Eh bien, en tout cas, un grand merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'ERG Pride Analyze. Éventuellement, ça vous aura donné envie d'en faire aussi dans vos entreprises, de créer des ERG. En tout cas, si cet épisode vous a ému, inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À très bientôt sur la radio Queerazio pour un prochain épisode de la grande interview.
Bye.